voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Nous ne pouvons plus simplement nous résoudre à produire de bons exécutants au service d'un système à bout de souffle. Les enjeux mondiaux, écologiques, sociaux, sociétaux, économiques et humains nécessitent l'émergence de citoyens épanouis et responsables, contributeurs d'une réelle évolution de l'humanité. Belle idée de Caroline que je partage bien volontiers. L'éducation pourrait bien être l'une des clés essentielles pour pouvoir contribuer à ce changement. Dans sa deuxième émission, La Voix du Kaizen, Caroline revient sur son itinéraire personnel qui l'a amenée à s'interroger sur l'avenir de nos sociétés. Caroline, on est dans ta classe, enfin dans une classe de la Living School ici dans le 19e de Paris. Et à ce qui fait que tu t'es intéressée à l'éducation que tu as mis en place à cette Living School? On va revenir en arrière, peut-être à ta propre enfance, à ta propre éducation. Comment est-ce que toi tu as vécu l'école et qu'est-ce qui t'a amené vers ce que tu as souhaité mettre en place aujourd'hui?
Alors, moi, avant de créer Living School, j'ai eu, comme tout le monde, un parcours scolaire et avec des facilités, mais beaucoup de frustration. Donc, en gros, moi, si je dois résumer, j'avais le parcours de la parfaite élève. Et d'avoir réussi, j'avais pas pris la mesure de la souffrance que ça m'avait occasionnée. Et c'est en fait Donc j'ai fait un parcours assez classique avec ensuite une prépa, une grande école de commerce et puis j'ai travaillé pendant 6 ans en entreprise. D'abord dans le marketing et où je me suis dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi on cherche à vendre, etc. » Enfin, je ne voyais pas trop le sens, pas trop l'intérêt. Puis je me disais « Si j'en ai pour 40 ans là-dedans, je vais pas tenir. » Et puis j'ai cherché ce qu'il pouvait y avoir d'un peu plus humain dans l'entreprise. Donc je suis allée vers les ressources humaines avec l'idée de faire des ressources humaines vraiment humaines. Mais malgré tout ça, j'étais quand même un peu en perte de sens, quoi. Je trouvais que, franchement, ce qu'on nous proposait, faire du profit à court terme, toujours plus, toujours plus vite, manquait singulièrement de sens. Et donc, j'ai été plutôt à ce moment-là même pas bien. C'est-à-dire que je suis allée presque au burn-out à ce moment-là en me disant « mais c'est pas possible, c'est pas ça ». Et il m'a fallu aller assez loin en tirant sur la corde pour d'un seul coup me poser les vraies bonnes questions, quoi. Me dire « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et à ce moment-là, j'ai rencontré une femme qui a beaucoup compté dans ma vie, qui s'appelle Edel Goethe, et qui a développé un mouvement qui s'appelle le leadership éthique. Et moi, ça m'a énormément parlé, ça. C'est-à-dire l'éthique, le fait qu'on s'intéresse à l'éthique, ça répondait à ma quête de sens. Et cette femme, elle a développé aussi une approche qui s'appelle la psychologie d'évolution, et que j'ai trouvée très intéressante, dans la mesure où je connaissais pas mal d'approches et de développement personnel, vu que j'étais dans les ressources humaines. Ce que j'ai aimé dans son approche, c'est qu'elle s'intéressait à la psychologie des profondeurs, donc de l'individu en profondeur, mais aussi à la psychologie sociale, c'est-à-dire à cet individu, quel est son impact dans le monde et comment est-ce qu'à partir de ce positionnement individuel, on peut changer et avoir un impact plutôt positif pour transformer positivement la société. Et donc j'ai aimé le fait de découvrir une approche qui était globale. Et elle proposait, et elle propose toujours, un parcours sur le leadership éthique pendant 3 années. Donc je me suis inscrite dans la première promo et c'était en 2000 ou 2003, je sais plus exactement. Mais donc voilà, donc j'ai suivi 3 années de ce parcours, tout en étant encore en entreprise. Et ça a été hyper transformateur, parce que la première année, on faisait, à l'époque, il n'y avait aucun des films qu'on a eu depuis, qui nous ont ouvert les yeux sur l'état du monde, mais à l'époque, elle nous avait fait travailler la première année sur constat du monde. Donc on prenait des grandes thématiques transversales, comme la santé, l'économie, la finance, l'éducation, et on faisait, à plusieurs de la promo, un constat mondial de où on en est. Et je me souviens qu'à la fin des présentations de nos constats, de tous les groupes, moi, j'ai eu un énorme frisson et je me suis dit, mais c'est pas possible, on marche sur la tête, quoi. Et j'ai découvert après Pierre Rabhi qui disait, si des extraterrestres nous regardaient, ils diraient, c'est des génies, mais ils sont complètement idiots, quoi. C'est vrai qu'on a une intelligence, mais on la met pas au service de la construction. Enfin, pour l'instant, on la mettait pas, ça va venir. Au service de la construction, on avait plutôt tendance à s'autodétruire. Et donc, du coup, ce parcours, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et lors de ce parcours, j'ai aussi revisité l'éducation que j'avais reçue. Et en la revisitant, je me suis rendu compte que ce parcours qui avait l'air si réussi, si parfait, avait occasionné pour moi déjà beaucoup de souffrance, c'est-à-dire que j'étais quand même rentrée sacrément dans le moule, quoi. Donc il y a eu une grosse opération de démoulage à effectuer, et j'ai pu prendre, parce que j'ai eu revisité ça, développer davantage d'empathie, parce que je pense que j'en avais pas à l'époque, d'empathie pour tous les gens qui ont souffert de ce parcours, et notamment tous ceux qui n'ont pas réussi. À l'époque, c'était 130 000, 160 000 jeunes qui quittent le système sans qualification par an. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a un peu moins, ce qui est mieux. Mais je trouvais que c'était terrible parce que ces jeunes, quand on dit sans qualification, on n'a rien dit de leur vécu. En fait, leur vécu, c'est « je suis nulle ». Et en fait, il suffit que tu poses la question à des jeunes qui rencontrent des difficultés à l'école, même des enfants qui rencontrent des difficultés à l'école ou des plus âgés qui n'ont pas réussi à avoir de diplôme. La première chose qui leur vient, c'est « je suis nulle ».
Bah, c'est évident parce qu'on a toute notre scolarité évaluée. Donc finalement, la note va nous positionner dans cette échelle sociale et on a une mauvaise note, on va penser qu'on est mauvais.
Exactement. Et donc pour moi, c'était vraiment important d'arrêter d'envoyer le message « je suis nulle » aux enfants, mais plutôt de mettre le regard sur le potentiel immense des jeunes, des enfants, dans la mesure où si j'ai bien appris quelque chose en psychologie d'évolution et que j'ai expérimenté pour moi et pour plein d'autres, c'est qu'on a un potentiel de création, d'imagination, de prise de conscience, de repositionnement, d'évolution qui est infini. C'est énorme le potentiel qu'on a. Et je me dis, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied au niveau de l'humanité que de refuser de voir ce potentiel alors qu'on a de tels enjeux auxquels on doit faire face. Et donc pour moi, l'équation, pour résoudre l'équation de demain, c'est quand même mettre le regard à fond sur les potentialités de tous les enfants et de tous les jeunes et leur dire oui, tu es capable, tu es unique. C'est-à-dire chacun d'entre nous est unique et chacun a un talent particulier à apporter au monde. Et pour moi, ça c'est hyper important de passer ce message-là aux jeunes. Et je pense aussi que c'est très important dans l'éducation de ménager des espaces, des temps, pour que les jeunes, les enfants puissent creuser réellement leur passion. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui fait sens pour eux? Qu'est-ce qui est, au fond, leur projet de vie? Parce que je suis vraiment intimement persuadée que chacun d'entre nous, au fond, a un projet de vie, a quelque chose de particulier à apporter au monde. Et je me dis, si vraiment tout notre système éducatif se met en route pour écouter ça, mais ça va être merveilleux, c'est-à-dire que chacun va se réaliser pleinement, on aura des gens épanouis, et des gens épanouis, bah, ça crée des belles choses pour transformer positivement la société.
Des gens épanouis. Moi, je trouve ton parcours hyper inspirant parce que tout aurait pu très bien se passer. Tu étais une bonne élève, tu as bien réussi tes études, tu es rentrée dans le moule, comme tu disais, tout se passait parfaitement bien.
Sauf qu'à un point majeur, j'étais malheureuse. Et je pense que... je me dis certainement les gens qui nous écoutent, il y a certainement des gens qui se disent... ok, tout va bien, tous les compteurs sont au vert, je gagne bien ma vie, j'ai un métier qui est reconnu, mais est-ce que je suis heureux? Et je pense que ça, c'est la vraie question à se poser, de manière à ne pas s'aliéner, c'est-à-dire pouvoir vraiment se rencontrer. Et je pense que l'éducation classique, standard, elle ne permet pas une rencontre vraie de soi avec soi. Et moi, c'est ce que j'aimerais, c'est que le système éducatif permette vraiment une rencontre de soi avec soi pour se dire, mais tiens, au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je rencontre aujourd'hui plein de gens, plein d'adultes qui viennent me voir ou autres et qui du coup se posent la question pour eux-mêmes. Mais ok, je suis dans cette voie aujourd'hui, mais je sens que c'est pas vraiment mon truc, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et je leur dis, écoutez, vous savez quoi? Ouvrez un petit carnet et notez toutes les choses qui vous donnent de la joie. Parce que pour moi, l'indicateur le plus important, c'est qu'est-ce qui me met en joie. Et les gens souvent me disent, ah tiens, c'est marrant, j'avais pas vu les choses comme ça. Et commence à noter pour eux, tiens, ce qui me donne de la joie, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, il commence à y avoir quand même des lignes qui se dégagent. Ah bah tiens, moi, ce qui me met en joie, c'est la cuisine, c'est cuisiner pour les amis, c'est tout ce qui tourne autour de la nourriture saine. Et puis tiens, la personne va du coup passer du commercial à apporter une nourriture saine aux gens. Tiens, moi, ce qui me met en joie, c'est... Voilà, donc chacun va trouver un peu son talent unique et je trouve que c'est ça qui est très très important.
Donc remettre la joie finalement au cœur de ses préoccupations.
Complètement. Alors pour moi, la joie, elle est essentielle. Après bon, si on dit à l'éducation nationale, il faut mettre la joie au programme, je ne sais pas s'ils seront encore complètement en mesure d'entendre ce message, mais pour moi c'est très important la joie.
En tout cas, ce qui est intéressant, tu parles de l'éducation nationale, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a des alternatives. On peut très bien choisir, en tant que parent, de mettre son enfant dans l'une ou l'autre école.
Alors, le problème... Enfin, aujourd'hui, effectivement, il y a des alternatives. éducatives, de plus en plus d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de projets alternatifs qui se créent. Maintenant, une des difficultés, c'est que le système en France des écoles privées qui se créent, privées hors contrat, c'est que contrairement à certains pays scandinaves où l'argent qui est alloué par enfant et suit l'enfant où qu'il aille, que ce soit dans le public ou dans le privé, donc il y a une enveloppe éducation qui est donner aux enfants et qui va permettre de soutenir tous les projets et donc une pluralité en termes d'éducation. En France, c'est assez simple, c'est que tout l'argent du contribuable va à l'éducation nationale et donc les projets comme le nôtre d'écoles hors contrat vont devoir se financer principalement par ce qu'on appelle les collages, c'est-à-dire par la participation des parents. Donc ça en fait quand même, en termes d'alternatives, je dirais, ça reste quand même ouvert à des familles qui vont être qui vont avoir les moyens financiers de se payer ces scolarités. Alors, je dirais que ça bouge depuis ces dernières années parce que, par exemple, je regarde de presse qui est en train de créer la Fédération Montessori 21 et qui est assez formidable. Ils font des écolages en fonction du quotient familial et leur objectif, c'est de mettre la pédagogie Montessori accessible davantage à toutes les bourses. Et je trouve que c'est une super démarche. Donc, on est en train de regarder pour voir un peu comment on pourrait éventuellement s'appliquer ça. Il y a aussi des systèmes de bourses. Nous, on a deux enfants boursiers à la rentrée prochaine et on en a eu pendant des années. Donc, mais je dirais que la difficulté en France, c'est encore celle-là. C'est que ça reste cantonné à des familles qui vont pouvoir quand même financièrement se le payer.
Donc, est-ce que tu peux me redéfinir le projet de la Living School, Caroline ?
Donc, la Living School, elle a une raison d'être depuis le début qui est assez ambitieuse, mais je trouve qu'on le vit bien ici en interne, et c'est bien intégré. C'est par l'éducation et la formation, puisqu'on est aussi un centre de formation pour les parents, pour les professionnels de l'éducation, permettre l'émergence de citoyens épanouis et responsables qui contribuent à une réelle évolution de l'humanité. Donc ça, c'est vraiment un bel objectif. Et après, on fait ça avec trois axes. On a trois axes forts à Living School. Le premier, c'est le savoir-être. C'est vraiment, et pour nous, c'est le cœur de tout notre projet pédagogique, c'est de se dire notre façon d'être, elle a un impact dans nos savoir-faire, elle a un impact dans nos résultats, elle a un impact du coup dans notre environnement, proche et lointain. Et donc pour nous, notre façon d'être, elle est clé. Et donc le savoir-être, chez nous, il y a un temps pédagogique dédié au savoir-être toutes les semaines dans toutes les classes, une formation des enseignants, donc les enseignants font un travail sur eux-mêmes de manière à s'épanouir davantage et à pouvoir épanouir davantage les élèves. Donc il y a une forme d'exemplarité. Et puis les parents aussi travaillent sur le savoir-être au travers d'ateliers parents. Le deuxième axe chez nous, c'est l'éco-citoyenneté. C'est vraiment de se dire, c'est pas juste une école comme ça, c'est une école qui veut pouvoir à sa façon transformer positivement la société et le monde. Donc les enfants disent changer le monde. Et donc on permet aux enfants de conduire ce qu'on appelle des projets pour la planète. Dès le plus jeune âge, ça peut être des projets lointains de solidarité internationale, mais ça peut être des projets proches, venir en aide aux SDF du quartier parce qu'on les croise quand on va au parc tous les jours et qu'en hiver ils ont froid et qu'on voudrait leur payer une chambre d'hôtel pour qu'ils aient chaud. Enfin voilà, donc ça peut être vraiment très lointain et très proche. Et puis le troisième axe chez nous, c'est l'école des adultes. Donc l'école des parents et l'école des professionnels de l'éducation, c'est de pouvoir faire passer ce message que le savoir-être, c'est clé et qu'on peut plus en faire l'économie et que c'est vraiment important de s'y intéresser, à la fois pour que ces adultes dont c'est la vocation, c'est-à-dire que c'est la vocation d'un enseignant, au fond, d'épanouir les enfants et leur apporter le meilleur. Bien sûr, on ne devient pas enseignant parce qu'on a envie d'embêter les enfants et les jeunes. Et c'est aussi la vocation du parent d'épanouir son enfant. Donc, nous, l'idée, c'est de leur permettre vraiment de trouver les clés de réaliser cette vocation pleinement. Donc, d'être plus épanoui, affirmé de la bonne façon, plus joyeux, de prendre du recul, de moins culpabiliser et d'évoluer.
Ton parcours est assez étonnant dans le sens où tu as fait un virage à 180 degrés à un moment donné dans ta vie pour remettre, comme tu le disais, la joie au cœur des préoccupations. Est-ce que tu pourrais donner des clés aux parents ? Quelles questions doivent se poser les parents pour apporter la meilleure éducation possible à leurs enfants ?
Je dirais la première des choses à voir quand on est parent, c'est de prendre conscience que son enfant a à la fois un immense potentiel, donc vraiment être conscient de ça. Vraiment, les enfants ont un immense potentiel. Ils ne sont pas fragiles, ils ne sont pas petits, ils ont un immense potentiel. Et voir aussi que notre savoir-être en tant que parent, va avoir un impact positif et négatif sur notre enfant. Et donc de devenir plus consciente de comment notre savoir-être impacte notre enfant. Dans la mesure où il y a des choses très positives chez nous qui vont complètement construire nos enfants et dont nos enfants vont s'inspirer et qui vont les renforcer. Et puis il y a aussi chez nous, parents, des moments où on a une dimension émotionnelle réactionnelle qui sort et qui va impacter négativement notre enfant. Donc devenir un peu plus conscient que quand notre enfant manifeste quelque chose, par exemple le rapport de force, si notre enfant est dans le rapport de force, c'est que nous sommes nous-mêmes dans le rapport de force, dans la mesure où le rapport de force, ça ne se joue pas tout seul. Donc, qu'est-ce que je peux changer, moi, à mon niveau, pour sortir du rapport de force avec mon enfant? Si, par exemple, c'est ça la problématique. Si mon enfant manque de confiance en lui, à quoi ça me renvoie? Est-ce que moi, j'ai confiance en moi? Est-ce que moi, je vois mon potentiel? Est-ce que moi, je vois mes qualités? Peut-être que non. Tiens, peut-être comment je pourrais avoir une meilleure image de moi qui permette à mon enfant d'avoir une meilleure confiance en lui? Donc, nous, on part du principe que l'enfant... Et les comportements de l'enfant vont être pas mal miroirs quand même, en positif ou en négatif, de nos propres positionnements. Et donc c'est très important, sans aucune culpabilité, donc 0% culpabilité, mais 100% responsabilité, nous sommes responsables. Comment est-ce qu'on peut, nous, à notre niveau, se repositionner pour avoir un impact positif sur nos enfants? Donc je dirais c'est ça, c'est à la fois voir pleinement le potentiel de son enfant, pas l'identifier à ses émotions négatives, hein, en se disant non, au fond c'est pas lui, c'est une réaction à un environnement, à des impacts, et notamment des impacts que, malgré moi, tout en faisant du mieux que je peux, je crée. Donc voilà, s'inclure dans l'équation aussi.
Et peut-être pour terminer, on va rentrer dans un rêve, on va se créer un rêve, on va imaginer, ou je vais te laisser me décrire pour toi, quel serait le meilleur système éducatif possible pour un enfant?
Je ressens que le meilleur système éducatif possible pour un enfant, c'est que déjà les adultes qui s'occupent de l'éducation soient heureux. Pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que si un adulte est heureux, il va faire des choses formidables avec les enfants et il va leur permettre d'être heureux. Donc c'est pour moi très important qu'on prenne soin des adultes qui s'occupent des enfants, qu'on prenne soin des professionnels de la petite enfance, qu'on prenne soin des enseignants, qu'on prenne soin des directeurs d'établissement et qu'on prenne soin de la relation. Donc à la fois de la relation entre adultes et de la relation avec les enfants. Et donc si on fait ça... Mais c'est évident qu'on va avoir un impact énorme. Donc c'est pas tant dans les savoir-faire finalement, c'est vraiment dans les savoir-être. Comment faire en sorte que tous ces adultes au niveau de leur savoir-être soient épanouis, parce qu'à partir de cet épanouissement, c'est une évidence qu'ils vont épanouir les enfants.
On est dans la classe, dans une des classes de la Living School. Est-ce que tu peux me parler du déroulement d'une journée ici dans la Living School?
Alors une journée, si je parle de la maternelle, par exemple dans la classe où nous sommes, c'est la classe de moyenne section, grande section. Donc les enfants le matin, ils arrivent, il y a un temps d'accueil avec des activités libres. Et ce qui est génial, donc hier matin quand je suis arrivée dans cette classe, les parents s'installent avec leur enfant, jouent, ils ont une demi-heure avec leur enfant dans la classe, c'est ouvert. Donc on voit des parents, quelquefois on les voit pas d'ailleurs parce qu'ils sont accroupis à quatre pattes en train de jouer, à faire des circuits, à jouer avec des activités. Voilà, donc ils sont fondus dans le décor avec leur enfant, mais on voit aussi des parents qui discutent avec les enseignants parce que c'est un temps d'accueil, un temps d'échange. Ensuite, il y a un enfant qui va commencer à sonner le début du rangement, donc les enfants rangent et se retrouvent en rassemblement. Et là, la matinée commence toujours par ce qu'on appelle l'éveil corporel chez nous. Et pour nous, c'est super important de commencer par être bien, commencer bien sa journée en se détendant, toutes les parties du corps, en s'étirant, en se recentrant. Et souvent, on accueille un parent qui s'inscrit à l'avance pour cet éveil corporel. Et souvent, du coup, c'est son enfant qui va animer à ce moment-là l'éveil corporel pour tous les copains. Donc chez nous, l'éveil corporel, il est animé par les enfants dès la moyenne section. Et l'éveil corporel continue jusqu'au CM2. Donc tous les matins, ça commence par un éveil corporel. Ça permet, donc il y a une petite bougie qui est allumée, ça permet vraiment de se recentrer, de commencer la journée dans les meilleures conditions. Et ensuite, vu qu'on est une école bilingue, alors dans cette classe, l'anglais, c'est l'après-midi, mais le matin, il va y avoir deux groupes. Un groupe qui va être en activité avec Benjamin et qui peut faire, par exemple, des activités libres en utilisant du matériel. Donc, on a plein de matériaux différents. On a du matériel de mathématiques qui permet de mieux comprendre la numération. On va avoir du matériel de Montessori aussi qui va permettre aux enfants d'être autonomes et de découvrir les apprentissages en manipulant. Souvent il y a le matin donc un autre adulte dans la classe, donc là c'est Andrea. Et Andrea, chez nous, elle est spécialisée des mathématiques. Et donc elle apprend les mathématiques, mais de manière joyeuse, dans le jeu, où les enfants manipulent énormément et quelque part ils ne se rendent pas compte qu'ils font des mathématiques. Pour eux, ils jouent, c'est tout ce qu'ils font. Et puis ensuite, ils se retrouvent pour un petit rassemblement avant d'aller au parc, où ils vont chanter, se compter, faire la date, enfin des choses un peu plus classiques, compter le nombre de jours pour apprendre pareil les unités, les dizaines, un jeu avec des pailles. Et puis ensuite, ils partent au parc, là, une heure. On part au parc parce que le temps de se mettre en route, d'aller au parc. Voilà. Et ils partent une heure, ça fait 10 ans qu'on va au parc. On y va avec des plots pour délimiter l'endroit où on va. On est de temps en temps dans le sable, de temps en temps dans l'herbe. On y voit les saisons, enfin, c'est un moment qui est génial. On a de temps en temps le parachute, qui est un jeu de coopération où les enfants vont essayer de faire rebondir un ballon. Donc voilà, ça c'est un moment qui est vraiment joyeux, qui est génial, qui est dans un cadre fabuleux, qui est le parc des Buttes de Chaumont. Et puis, ensuite, les enfants reviennent vont passer aux toilettes, se laver les mains, aller déjeuner. Donc, ils mangent bio, ils ont un repas bio. Et puis, ensuite, les enfants se lavent les dents. Donc, chez nous, ils se lavent les dents tous les midis. Ils ont leur brosse à dents, leur dentifrice, donc ils se lavent les dents. Et puis, ils vont faire la sieste. Donc, il y a un petit temps pour les moyennes sections vraiment de sieste. On tire le rideau, ils se reposent dans le petit coin sieste. Et puis, pour les grandes sections, ils sont sur des petits matelas de yoga. Ils ont un petit temps tranquille. Ensuite, ils peuvent prendre un livre. Et puis, ensuite, ils peuvent commencer calmement les activités sans réveiller les copains qui dorment.
Merci beaucoup, Caroline. Si j'avais envie de retenir une chose, enfin, il y a plein de choses. Hein. Franchement, merci. Je me suis régalé à travers l'échange qu'on vient d'avoir. Mais une chose que j'ai envie de reprendre en conclusion, c'est peut-être ça finalement, c'est se poser la question de la joie et la remettre au cœur de nos préoccupations.
Ah, complètement. La joie et le sens, mais je dirais que quand on est joyeux, le sens est pas loin.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.